Créa, Université de Lyon 2, il y en a plein ici, de l'animal sacrificiel entre licite et légal.
D'accord, oui, merci. J'espère que c'est bon, c'est ici. Alors, merci aux organisateurs de l'accueil pour ce colloque. Et puis, alors, moi, ma réflexion, on partira d'une réflexion finalement assez simple, assez large, mais en quoi les pratiques donc, de sacrifice et d'abattage rituel, c'est ce qui va m'intéresser ici, peuvent constituer un observatoire particulier des constructions symboliques et sociales de l'animal, de l'animalité, mais aussi, et c'est là où je vais introduire la dimension des conflits de représentation finalement, qui entourent aussi la question des visions animales, et notamment, dans le cas qui m'intéresse, de la mort animale. Alors voilà, finalement, donc, c'est un peu la question initiale, et en quoi finalement aussi différents modèles animaliers se confrontent à propos du sacrifice. Alors je vais développer ça avec des exemples plutôt de terrain européen et autour d'une trame qui porte sur cette idée du rapport entre le licite et le légal. Voilà, c'est ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire quels sont finalement les régimes de légitimité et puis les conflits autour de la question de la légitimité qui concernent les pratiques sacrificielles. Voilà. Alors, je vais commencer par rappeler très brièvement, enfin, c'est un point de vue, mais que selon moi, en anthropologie, la question de l'animal dans le sacrifice, elle est à la fois ancienne et nouvelle. Alors, bon, je m'explique, elle est ancienne parce qu'effectivement, de nombreux travaux interrogent ce que le sacrifice fait à l'animal, d'une certaine manière. Alors, au travers, par exemple, des aspects symboliques, des aspects sociaux, mais aussi des aspects, finalement, je dirais, techniques, bon, comment tuer, les questions d'anatomie, etc., ou des aspects économiques. Alors ça, bon, ce sont des choses qui sont très travaillées, mais elle est également nouvelle dans la mesure où la question inverse, alors ce que l'animal fait au sacrifice, finalement, ça commence à se poser vraiment, bon, c'est mon point de vue, au moment où le sacrifice, finalement, cesse d'être une pratique, disons, exotique, pour devenir une question très actuelle des sociétés, bon, pour dire vite occidentales, et en particulier, dans ce cas précis, des sociétés européennes. Alors voilà, donc je pense évidemment aux travaux d'Anne-Marie Brisbard et aussi de Pierre Bombe, bon voilà, disparu récemment, et Anne-Marie Brisbard qui travaille sur le sacrifice musulman en France, et elle montre comment c'est le sacrifice au cœur de la ville, quoi, donc avec des enjeux qui sont liés à des vécus rituels, mais aussi migratoires, d'une part, et puis elle aborde évidemment la question des enjeux sanitaires, légaux, culturels, de la mort animale dans des sociétés bon, laïcisées, urbanisées, etc. Alors, c'est un peu ma question de base, c'est-à-dire cette visibilité nouvelle des pratiques sacrificielles dans des sociétés qui y répugnent, alors je reprends le mot d'Alain Testard, ça s'accompagne aussi, à mon avis, d'un nouveau regard sur l'animal. Il n'est plus simplement un support des dimensions religieuses ou sociales du sacrifice, mais il devient une problématique en soi. Alors, à ce titre, quelques références, mais les travaux très critiques aussi de Françoise Armengaud, par exemple, sur la notion de sacrifice comme socle d'une idéologie de l'exploitation absolue de l'animal, voilà, comme si le rituel cachait finalement derrière un modèle d'exploitation. Dans un autre registre, les approches de Florence Burga aussi précisément sur les enjeux juridiques du sacrifice. Alors, on a un petit peu finalement le sentiment d'une notion qui est animalisée en quelque sorte, avec des guillemets, et en particulier autour de débats qui se posent en termes de légitimité ou alors légalité à tuer les animaux. Et dans ce cadre-là, rituellement. Alors, un petit point juste sur le cadre juridique européen actuel en matière de mise à mort rituelle. Je ne suis pas juriste, mais en allant voir un petit peu de ce côté-là, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a une sorte d'équilibre assez difficile entre ce qui serait du ressort des droits des animaux et de l'autre côté des droits culturels et aussi cultuels. Alors, vous avez ici un extrait du règlement de l'Union européenne récent, 2009, qui porte sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, où il est stipulé que le bien-être des animaux est une valeur communautaire. Leur mise à mort doit s'opérer conformément au code sanitaire international, donc qui concerne le traitement, l'immobilisation, l'étourdissement, etc. Et d'autre part, dans ce règlement, on observe qu'il y a des dérogations qui sont relatives à quoi? Aux rites religieux, aux traditions culturelles et au patrimoine régional. Donc, ce qui est intéressant en soi aussi, patrimoine régional. Bon. En particulier, il y a dérogation à l'exigence d'étourdissement préalablement à l'abattage, en fonction de la question de la liberté de religion et du droit de manifester sa religion, ses convictions, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites. Alors, vous voyez, déjà, on peut déceler cette question de légitimité, licéité et légalité au travers de la difficulté de la transposition dans la loi. Alors, je commencerai par donner un exemple de pratique sacrificielle. Tout ce qu'il y a, par contre, de plus traditionnel, finalement, bon, je mets des guillemets, hein, mais jugé légitime culturellement dans le contexte européen. Et à partir d'un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est un rituel qui s'appelle le kurban et qu'on trouve dans de nombreux pays des Balkans. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce rituel-là? Déjà, il faut noter que c'est une pratique très répandue. Hein. Alors, notamment, moi, j'ai fait du terrain en Bulgarie. Et les caractéristiques de ce rituel, c'est quoi? C'est que c'est un rituel partagé entre communautés confessionnelles, principalement chrétiens orthodoxes et musulmans, qui est présent dans un grand nombre d'occasions rituelles. On va trouver ça dans les baptêmes, dans des enterrements, etc. Bon. Ça consiste à sacrifier des animaux, donc au nom de Dieu ou de saints, hein, et puis à partager, cuisiner, consommer les chairs. Alors le terme lui-même, il désigne l'ensemble du rite, notamment la mise à mort, mais il va désigner aussi plus précisément l'offrande elle-même et le repas issu du sacrifice. L'animal de référence, bon, voilà, alors c'est un ovin, hein, voilà, mouton, bélier, agneau. Par contre, le courban peut concerner un grand nombre d'autres espèces, toutes domestiques. Hein. On retrouve là aussi l'idée d'un lien entre sacrifice et domesticité. Le modèle en est donc le sacrifice d'Abraham. Alors ici, bon, une illustration, une reproduction finalement de cet épisode dans lequel donc un bélier est envoyé par Dieu et pour être substitué au fils du prophète. Et c'est cet épisode que commémore notamment donc qu'on commémore en islam lors de la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha, ou alors le Kurban Bayram aussi, hein, comme on l'appelle dans l'espace turc. Une pratique donc largement répandue dans le monde musulman, qui n'est pas une obligation impérative, mais plutôt une sunna, une tradition, et qui a un lien aussi avec la notion d'aumône. Alors, sur le plan symbolique, il y a la notion de substitution, l'animal est tué à la place d'eux. Il y a aussi la notion de médiation, c'est-à-dire il représente le sacrifiant, et notamment il a un rôle psychopompe, c'est-à-dire l'animal est supposé guider le sacrifiant sur son chemin vers le paradis. On dit aussi que chacun de ses poils représente une bonne action. Alors, les rapports homme-animal-divin dans cette pratique sont relativement réglés et hiérarchisés via un certain nombre de critères et d'opérations. Et par exemple, alors, un bon animal sacrificiel, c'est un animal intègre et sain. Il doit être gras, non malade, non infirme. Il est aussi qualifié selon des critères esthétiques, symboliques. On le décrit comme beau. On l'embellit en ornant ses cornes. Alors, vous voyez un exemple de gravure qui illustre cette dimension-là, avec une couronne de fleurs éventuellement. Alors voilà, vous avez là c'est plutôt en contexte chrétien, mais des animaux qui sont finalement distingués du reste et qui sont ornés, qui sont embellis, qui sont voilà avec la couronne de fleurs. Enfin, on lui attribue des caractéristiques comportementales, par exemple la docilité, la soumission, le fait qu'il doit montrer des signes d'acceptation de sa mort, rester calme, etc. Alors, des critères aussi du bon sacrificateur. Alors, ça doit être un homme mûr. C'est souvent un homme d'âge mûr et décrit comme en pleine possession de ses moyens. Il est jugé sur ses qualités religieuses, d'une part, c'est-à-dire, alors, par exemple, bon, on récite une prière ou la profession de foi au moment du sacrifice, mais aussi des qualités techniques. On parle, par exemple, d'avoir la main légère, c'est-à-dire un acte qui, finalement, se veut le moins intrusif possible. Bon, c'est un égorgement quand même. Hein. Alors, vous avez un exemple ici de pratique hein, qui montre les manifestations concrètes que l'égorgeur doit avoir vis-à-vis de l'animal. Il lui donne un peu de nourriture, un peu d'eau. Il lui adresse des paroles apaisantes. Et il y a notamment la pratique de voiler le regard pour qu'il ne voit pas le couteau, qu'il ne voit pas la mort. Voilà. Mentionnons aussi l'idée que ce rituel-là constitue un élément culturel, voire même patrimonial, c'est-à-dire c'est l'indice d'une qualité des relations sociales, locales, notamment associées au village, au contexte rural. Et enfin, il y a la représentation d'une nourriture qui serait à la fois sainte et saine, hein, une dimension de « c'est plus authentique ». Bon, voilà. Alors, cet exemple-là, finalement, qu'est-ce qu'il me permet de... Il me permet d'arriver au deuxième point de ma présentation, l'idée qu'ici, on a une pratique légitime, car traditionnelle, finalement, hein, peu encadrée légalement. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais évoquer avec vous, alors de manière un peu comparative, c'est autre chose, c'est la place souvent difficile, voire polémique, des pratiques sacrificielles dans les sociétés européennes. Alors, autour notamment, et c'est là qu'on va rejoindre le thème de l'animal, autour des questions de la souffrance, de la mort animale et de sa gestion, mais aussi de sa légitimité. Polémique, pourquoi? Alors là, un petit point sur des instrumentalisations qui sont très idéologiques, hein, de ces questions. Alors, je vais donner un exemple un petit peu peu, un petit peu caricatural, mais l'Aïd al-Adha a eu lieu le mois dernier. On a pu assister à des réactions comme, c'est facile d'aller voir sur le net, un tweet d'une élue, alors bon, d'extrême droite, hein, voilà, et qui appelle à avoir une pensée pour les pauvres petits moutons sacrifiés pour une fête de sauvages. Vous voyez, le ton est donné, là, c'est très, évidemment, on stigmatise un groupe culturel aussi au travers de l'animal. Hein. On voit bien l'usage de l'agneau, hein, innocent, charmant, qui serait soumis à des pratiques qualifiées d'inhumaines, etc. Dans un autre contexte, je continue sur ces dimensions un peu caricaturales, mais qui révèlent des choses quand même. Hein. Ici, c'est une protestation contre un projet d'abattoir exclusivement halal. L'animal est figuré en haut à gauche comme prenant la parole, il refuse lui-même sa mise à mort en disant « je ne veux pas être égorgé à vif », etc. Bon. Alors, qu'est-ce que ça illustre ? Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'évidemment, ça illustre les conflits de légitimité, les conflits qui émergent, qui sont parfois très cristallisés à propos du sacrifice. Et en quoi ça se cristallise aussi autour de la question des rapports aux animaux, hein ? Alors, j'ai déjà évoqué quelques éléments du droit européen en matière de mort animale. Bon, je ne suis pas du tout juriste, mais ces législations se traduisent par un certain nombre d'innovations techniques concernant les manières de tuer sans souffrance, en évitant à l'animal la conscience de sa mort. Et il y a l'obligation de l'étourdissement, hein, c'est dans les textes, de telle sorte que l'animal ne doit pas être conscient de sa propre mort, avec des moyens parmi lesquels le plus répandu est l'électronarcose, c'est-à-dire un choc électrique, hein, qui est appliqué à l'animal. Et donc, je l'ai déjà dit, ça doit se faire, c'est la règle, sauf dérogation. Alors, il convient de préciser maintenant pourquoi une dérogation. Dans le cas de l'abattage rituel et du sacrifice, parce qu'il y a la conception selon laquelle, pour certains experts religieux, l'étourdissement contribuerait à tuer l'animal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il le rendrait haram, hein, impropre à la consommation, parce qu'il aurait été tué avant d'être vidé de son sang, etc. Alors, c'est ce point précis, finalement, de la dérogation. Je vais en venir maintenant à un autre aspect qui concerne les mobilisations anti-sacrifice. Hein. C'est ce point précis de la dérogation qui est au cœur des débats et sur lequel se positionnent aussi un certain nombre de mouvements de défense et de protection des animaux. Et la question de la souffrance et de la conscience sert de levier pour des mobilisations qui visent à soit amender, soit voire interdire le sacrifice, les pratiques sacrificielles et l'abattage rituel. Un exemple, une campagne récente d'une ONG qui s'appelle Occupy for Animals, qui est basée au Luxembourg, et qui a lancé une campagne en 2012 qui s'appelle Ban Religious Slaughter in Europe, c'est-à-dire bannir le sacrifice religieux en Europe. Et cette ONG donc, dénonce globalement l'oppression de 99% des animaux par les hommes, et elle s'attaque notamment au sacrifice aussi, alors en ces termes. L'idée, c'est que ce qui est dénoncé dans le sacrifice, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée que ce serait une exploitation animale déguisée sous le rituel. La campagne utilise des images certes choquantes, et en lisant le texte, on voit bien qu'il y a des jugements de valeur. Hein. Par exemple, on va fustiger le caractère anachronique. Ça ne doit pas se faire dans des sociétés modernes, hein, ça. En même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'elle repose aussi sur une sorte d'argumentation qui est finalement assez solide. Et puis, elle essaye de se situer sur un plan juridique, clairement, en disant, bon, mettons de côté des arguments culturalistes, la question doit être une question juridique. Alors, on va jouer en particulier sur une chose, c'est aussi des contradictions qu'on trouve au sein des instances religieuses, hein, en matière de sacrifice et de rapport à l'animal. Alors, en effet, pour des raisons diverses, les instances confessionnelles concernées ne sont pas toutes d'accord sur la question. Certains jugent que l'étourdissement est conforme à la tradition, s'il n'entraîne pas la mort, bien sûr. D'autres rejettent l'usage de tout type d'étourdissement, pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire ça rend l'animal impropre à la consommation. Donc, c'est un indice. Il y a aussi un indice de certains brouillages ontologiques, hein, à l'œuvre là-dedans, c'est que certains détracteurs de l'étourdissement, qui refusent l'étourdissement, invoquent des arguments animalistes, d'une certaine manière. Ils dénoncent le fait que l'étourdissement provoquerait une désanimalisation de l'animal, que ça serait une technique elle-même jugée douloureuse, dégradante. Alors, par exemple, l'imam et le recteur de la mosquée de Bordeaux jugent qu'à cause de l'insensibilisation, les bêtes sont de moins en moins animées et donc animal. Voilà, hein, c'est intéressant, c'est-à-dire désanimer les bêtes, c'est les rendre moins animales d'une certaine manière. Et donc l'étourdissement est renvoyé aussi du côté de conception finalement occidentale, biologisante de l'animal. Hein. On explique que l'étourdissement, c'est une pratique qui relève de l'abattage industriel, donc de l'animal-objet, alors que le sacrifice, en pleine conscience, serait finalement beaucoup plus respectueux, car beaucoup plus personnalisé vis-à-vis de l'animal. Enfin, vous comprenez l'argument. La question, elle est donc bien, qu'est-ce que tu es ? Alors, vous voyez, des images tirées, hein, bon, c'est un peu brutal, hein, mais tirées de la... c'est ce qu'on montre quand on veut illustrer cette question-là, c'est-à-dire là, l'animal qui a été insensibilisé, qui est renversé, etc. Bon. La question reste donc bien, finalement, qu'est-ce que tu es humainement un animal ? Mais on voit bien que elle, ça ne se limite pas simplement à une opposition entre tenants ou détracteurs de l'animal. Ça pose un débat sur la nature de l'animal, la nature de la conscience qu'on lui prête, et aussi la signification du sacrifice. Et on trouve des prises de position qui prônent finalement une transformation de la pratique en acte de solidarité et en don. Et à terme, ces prises de position pourraient signifier l'abandon finalement de la pratique sacrificielle. Alors, un exemple, Tariq Ramadan, qui est un célèbre intellectuel, avait sur son blog posté un message selon lequel il fallait s'abstenir finalement de sacrifier et plutôt envoyer une somme d'argent équivalente aux pauvres du monde. Et alors là, cette position donc, est intéressante parce que, à mon avis, elle résonne fortement avec une dimension en développement que je qualifierais de humanitarisation du sacrifice. Alors je finirai là-dessus. Pour montrer comment de nouvelles pratiques émergent qui tiennent compte aussi de ces enjeux autour de l'animal. Donc, humanitarisation du sacrifice, sous la pression qui entoure le rituel, c'est-à-dire le fait que c'est difficile, voire stigmatisant de l'accomplir, et aussi en fonction de certains changements culturels à son égard, on observe une tendance croissante en France, par exemple, à ne pas sacrifier soi-même, mais à faire un don à une ONG confessionnelle qui va réaliser le sacrifice dans des pays finalement nécessiteux ou en crise. Alors, vous voyez le déplacement, c'est-à-dire, on dit, ça consiste à dire, moi, je ne sacrifie plus, mais j'en fais un acte humanitaire, et ça passe par une ONG. C'est une pratique qui a été lancée dans les années 80 par une ONG britannique, enfin l'ONG Islamic Relief, et qui a été reprise par de nombreuses ONG confessionnelles, notamment le Secours Islamique Français. Et alors, sur le plan doctrinal, la légitimation de cette pratique, c'est la question du sacrifice par procuration, qu'on appelle wakala, et qui constitue une modalité bien connue, finalement, d'accomplissement du sacrifice par un tiers. Et alors, moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que ce type d'initiative me semble de nature à modifier l'image et la pratique du sacrifice, mais aussi celle de l'animal sacrificiel. On va essayer de le dédramatiser, ou alors de le... Alors, un exemple, les campagnes de communication d'Islamic Relief présentent l'animal sacrificiel sous un jour ludique, vous voyez ici, hein, et notamment enfantin. Loin des images brutales du sacrifice, des campagnes anti-sacrifice, on a là un animal finalement, je dirais, banalisé, ou alors... ludicisé. Voilà. Le Secours islamique français, quant à lui, met l'accent sur la dimension humanitaire. Alors, notamment, on peut lire que, à l'occasion de l'Aïd, vous pouvez offrir un sacrifice aux populations dans le besoin. L'ONG va garantir le caractère licite de ce sacrifice virtuel. Elle s'engage à sacrifier un animal entier, non pas seulement donner de la viande. Et il y a une grille tarifaire, par exemple, vous allez trouver une grille tarifaire qui explique qu'en fonction des pays, on donne tant parce que donc on tient compte du marché, du prix de l'animal aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une sorte de virtualisation du sacrifice là, qui s'opère. Hein, voilà. Avec un don qui peut être fait en ligne, par mandat, qui peut être soit effectué pour un pays en particulier qu'on va choisir, soit versé vers un fonds sacrifice, hein, et qui va être utilisé selon les besoins. Les bénéficiaires sont décrits comme des populations vulnérables, selon les termes de l'ONG, c'est-à-dire, vous voyez, on humanitarise aussi les populations bénéficiaires, hein, et certaines années, c'est 500 000 personnes qui bénéficient de colis alimentaires qui sont issus du sacrifice. Alors, cette virtualisation de l'animal et de l'opération sacrificielle, à mon avis, elle résonne avec les interrogations dont j'ai parlé quant au rituel, hein, entre licite et légal. Si on écoute les cadres du Secours islamique français qui s'occupent de cette opération, pour eux, les motivations des donateurs, elles sont très diverses, mais il y a des arguments clés. C'est par exemple, on ne peut pas faire le sacrifice correctement en Europe. Bon, donc on délocalise. L'importance première de la charité. Ce qui compte finalement, ce n'est pas de sacrifier en tant que tel, mais c'est l'acte de donner. Hein. Le désir de s'acquitter de la tradition sans sacrifier soi-même, si on n'en a pas vraiment envie, si on ne sait pas faire, si on répugne à ça aussi. Il y a l'idée que le sacrifice aussi est davantage justifié, c'est intéressant, dans des contextes de, où il y a des pénuries en alimentation, où il y a des vrais besoins, c'est-à-dire nous, on n'a pas besoin de sacrifier sur le plan alimentaire. On peut ajouter aussi la volonté parfois exprimée par certains donateurs d'aider des populations, des pays d'où on est originaire, vous voyez, c'est-à-dire c'est un lien, ça permet de maintenir un lien aussi, avec un lien à distance avec le pays d'origine, et puis des arguments économiques, c'est-à-dire on dit en France c'est trop cher, donc on donne quand même, mais là où c'est moins cher. Voilà. Donc, si vous voulez, évidemment, ces pratiques-là, elles ne relèvent pas de la défense des animaux, on est bien d'accord, hein, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment s'opère une sorte de bonne mise à distance, de mise à bonne distance de la mort animale ritualisée. Et tout se passe comme si le sacrifice retrouvait du sens dans la mesure où il est réalisé là où il est le plus à sa place, c'est-à-dire finalement ailleurs, et dans des contextes où il aurait mieux conservé son sens, d'une certaine manière. Hein, voilà. Alors, moi j'appelle ça le cyber-sacrifice, hein, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement un pis-aller, hein, mais c'est aussi la possibilité de re-symboliser, rediriger le sacrifice vers des dimensions proprement humanitaires. Alors voilà, quelques mots de conclusion finalement. Hein, moi, ce qui me semble intéressant dans ces exemples, moi, ce que j'ai voulu c'est comment il y a différentes politiques du vivant et de la mort animale, hein, qui s'invitent dans la question du sacrifice et qui complexifient quand même des ontologies sacrificielles que l'on pourrait penser a priori assez immuables, parce que ancrées dans une tradition religieuse, dans la question du licite, etc. Ce qu'on a vu, c'est que les débats sur la légitimité de la mort rituelle, mais aussi sur le degré de conscience et de souffrance animale, et enfin sur la nature de la conscience animale, ils produisent des effets sur le sacrifice, ils contribuent à changer la tradition. Le sacrifice constitue moins un champ clos finalement qu'une arène axiologique, un point de débat qui met en tension des visions difficilement compatibles, mais qui aspirent toutes aussi à leur propre légitimité. Donc ce rapport entre licite et légal que j'ai pris un petit peu pour grille de lecture, il suggère que finalement il ne suffit pas de pointer des visions animales en particulier, hein, comme ça, comme si elles étaient isolées, mais à mon avis, ce qui est intéressant aussi, c'est que se pose toujours la question de leur rencontre, de leur conflit, et donc la question, c'est aussi le pluralisme des visions animales, hein, que j'ai essayé d'illustrer par cet exposé. Je vous remercie.